I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume généralement toute l'actu tech, internet, gadget. Et aujourd'hui, on va faire un petit détour par un sujet qui est un petit peu différent, comme tous les trois mois, les mois où il y a cinq semaines dans le mois, cinq semaines, il y a toujours quatre semaines, hein, je vous rassure, l'espace-temps n'a pas été modifié, c'est juste que tous les trois mois, il y a cinq mardis dans le mois, et à ce moment, on profite du cinquième pour faire un petit épisode spécial, pour changer un petit peu le rythme, pour parler de choses qui ne sont pas forcément ultra déprimantes. Là, on va faire un épisode un petit peu plus léger, un petit peu plus marrant, parce que vous savez que je vous dis souvent, la tech, la raison pour laquelle ça me passionne tellement, la raison pour laquelle c'est tellement important de tout comprendre, c'est que la tech, en fait, ça change tout. C'était déjà le cas quand on a commencé l'émission il y a plus de 10 ans, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. Elle change la politique, la communication, le commerce, les transports, évidemment notre rapport à l'information. Et c'est important de comprendre tout ça pour comprendre le monde, finalement. C'est l'argument principal que j'utilise pour justifier l'existence même du Rendez-vous Tech et l'importance de le comprendre. Parce que si on ne comprend pas la tech, on ne comprend pas le monde. Mais ça ne veut pas dire que des choses comme la politique et les transports et la communication. Ça veut aussi dire des métiers de tout le monde. Tout le monde est impacté. Et on vous parle régulièrement des métiers et des métiers communs et de la manière dont ils sont impactés par la tech. On avait fait, il n'y a pas si longtemps ou si peut-être un petit peu longtemps, un épisode par exemple sur l'agriculture et la manière dont les agriculteurs étaient impactés par l'avènement de la technologie. Et ben aujourd'hui, on fait des épisodes comme ça. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de dentiste et de vos dents et de la manière dont la dentisterie est impactée par la technologie. Je pense que c'est bon d'avoir de temps en temps ce type d'épisode pour voir vraiment des applications pratiques auxquelles on ne pense pas forcément et la manière dont tout ça se ressent dans la réalité, dans le vrai monde qui n'est pas juste un Facebook fantasmé. Je vais quand même finir ma présentation de moi-même. Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode. Et j'ai le plaisir de recevoir également Julien, qui est lui-même dentiste et enseignant dans le domaine, qui va nous aider à y voir un petit peu plus clair. Comment ça va, Julien ?
Ça va très bien, merci. Et toi ?
Bah merci, moi ça va très bien aussi. Je suis content de prendre un petit break. Encore que la semaine prochaine, on va avoir des trucs intéressants. Hein. Il y a Google qui va annoncer le Pixel 5, il y a des trucs qui sont passés au niveau d'Amazon.
Enfin, il y a des choses qui arrivent là.
Ouais, il y a des choses qui se passent. Donc on va parler de tout ça. Avant ça, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui permettent justement à ce passage en revue de la tech d'exister. Je voudrais remercier Guillaume Payette, Jérôme Lorenzetti, Franck Hilero, Mauge, Mani, Romain Nissen, Nabil, Jean-Christophe, peut-être un Libanais, Nabil, un camarade libanais, peut-être pas d'ailleurs, Jean-Christophe Coeffé, Richard Piron et Jérémy Dufault. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, en parlant de Patreon, j'en redirai un petit mot à la fin de l'épisode, mais il y a des choses qui se passent et la semaine prochaine, ça devrait être en place. Il y a des choses assez excitantes, pour moi en tout cas, qui se passent. Vous allez voir que c'est des choses qui changent. J'en avais déjà parlé juste il y a quelques semaines de ça, mais ça se met en place et c'est assez excitant. Donc, quoi qu'il en soit, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvtech. Et donc, Julien, dentisterie. Alors, on va parler de plein de choses, hein, de la manière dont on peut scanner l'intérieur de la bouche, de la conception de couronnes, de prothèses assistées par ordinateur, de chirurgie qui est guidée par informatique, des trucs un petit peu fantasmatiques de la tech. Mais moi, ce que je veux savoir, Julien, tout de suite là, quand est-ce que je pourrais imprimer des dents que je pourrais changer selon mon humeur à la maison ? C'est ça que je veux, moi. Des dents, tu vois, avec des petits diamants, des dents de différentes couleurs. Est-ce que je peux faire ça demain ? Je mets un petit pivot et puis je change les dents de devant, tu vois. C'est possible ou pas ?
Je ne suis pas sûr que ce soit validé par la science, mais il n'y a rien qui t'en empêche, qui t'empêche de faire ça avec une imprimante 3D et un petit scanner, ouais. on peut faire des espèces de gouttières, on peut faire plein de choses. Et pour Halloween, par exemple, sur des groupes Facebook de dentistes, on voit chaque année des papas et des mamans dentistes qui usinent des dents de vampires pour les coller provisoirement sur leurs enfants.
D'accord, ok. Donc, le futur, c'est déjà aujourd'hui. C'est très bien. C'est ce que j'espérais que tu me dises. Mais tiens, c'est marrant, ça. Bon, tu vois, c'est marrant. C'est pour ça que c'est intéressant d'explorer ce genre de métier. Sur des groupes Facebook de dentistes, vous avez des groupes où vous vous retrouvez entre dentistes et vous partagez les histoires de votre métier, les trucs marrants, les trucs intéressants ?
C'est ça, ouais. Bon, je pense que c'est le cas dans plein métier. Donc, j'imagine, on a des groupes de partage professionnel où on explique des cas, on fait des partages d'expériences, et des groupes un petit peu plus légers sur l'actualité, sur ce genre de choses. Voilà.
C'est marrant parce que, tu sais, nous, dans la tech, on parle toujours de la communication, et Facebook, c'est un peu ringard, c'est un peu genre, ouais, non, Facebook, on n'aime pas pour la vie privée, les machins. J'imagine que, bon, toi, bien sûr, tu es un auditeur du Rendez-vous Tech, donc tu es au courant de tous ces problèmes potentiels. Mais les dentistes sont des gens normaux, donc ils ne sont pas forcément hyper au fait des problématiques, ou en tout cas du bad buzz de Facebook de ces derniers mois et de ces dernières années. C'est ouais, Facebook que les gens utilisent, il n'y a pas les dentistes sur TikTok ou que tu saches.
Alors sur TikTok non, par contre Instagram ça se développe pas mal parce que c'est un des moyens de communication auprès des autres confrères, donc certaines personnes qui se spécialisent sur des domaines très pointus et très précis du domaine communiquent un petit peu avec des photos de cas cliniques, donc ils sont bien sûr anonymes, on peut absolument pas reconnaître la personne, mais qui profitent de ce médium pour communiquer aux dentistes autour d'eux et potentiellement se faire envoyer des patients qui ont ce genre de besoin par leur confrère.
Donc ça devient, c'est pas juste pour montrer, oh regardez, là il y avait une fracture qui avait une forme marrante, on dirait l'éclair sur le front de Harry Potter. Ça peut être des utilisations genre professionnelles qui passent par Instagram. Genre moi je traite ce genre de cas, si vous avez des gens à m'envoyer, allez-y.
Bah, c'est un petit peu ça, alors ça reste dans les cercles assez fermés. J'imagine. Normalement. Mais il y a des effets de bord avec quand même des... Ben, on a vu le cas il n'y a pas très longtemps avec une star de la télé-réalité qui s'est fait soigner par un dentiste et qui a pas mal parlé de lui autour d'elle sur Instagram, tout ça. Mais le principal usage de ça, voilà, c'est partage d'expérience et se faire un petit peu sa pub.
C'est marrant. Et se faire un petit peu sa pub aussi, oui. Est-ce qu'il y a des dentistes, j'imagine, des praticiens qui sont totalement indépendants, qui vont essayer de faire parler d'eux ou de gagner des patients? J'allais dire des clients, ouais, peut-être que le mot plaira pas, mais genre de se faire une, comment dire, c'est pas une communauté, mais de créer une présence, ouais, une présence, ouais, en ligne, et de trouver des clients et des patients par ce biais.
Ouais, alors directement aux patients, c'est à mon avis très rare, et puis c'est des choses qui sont assez mal vues,
ouais,
à juste titre, hein, parce que c'est le but du jeu, c'est pas ça. Mais par contre, pour se faire connaître auprès de ses confrères de la région sur ça, c'est un moyen de communication, parce qu'au final, on est assez isolé chacun dans son cabinet, on travaille avec une assistante, une personne ou deux, un autre dentiste tout dans le cabinet, mais ça leur permet, voilà, d'échanger, donc on se dit, bah, ouais, voilà, j'ai un patient qui veut absolument faire, je sais pas, 10 facettes, moi je me le sens pas, et bah, j'ai vu passer un post Facebook d'un confrère qui est dans la ville d'à côté, il a fait ça, bah, peut-être que ça vaut le coup de le contacter et de lui envoyer cette personne.
D'accord, super intéressant, d'accord. C'est marrant parce que Instagram, on y pense vraiment comme un truc, à la limite, tu vois, c'est mettre des photos, des selfies, à la limite, si t'es une boîte qui va vendre des baskets, tu vas essayer de faire de la pub sur Instagram. On ne pense pas forcément, ouais, à ces usages professionnels ou semi-professionnels. Et je suis sûr que là, tu l'évoques comme ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui entendent ça et qui disent « Mais attends, moi, je suis assureur. Évidemment qu'on fait ça sur Instagram. Ou moi, je suis, j'en sais rien, boulanger. On est sur Instagram tout le temps. » C'est marrant,
ouais. Et ouais. Bon, après, on a une problématique qui est un peu particulière, c'est qu'on n'a pas le droit de faire la publicité. Hein, c'est interdit par l'ordre des chirurgiens dentistes. Donc, c'est une zone un peu grise qui n'est pas investie par les ordres à l'heure actuelle, mais ça risque d'évoluer dans les années qui arrivent.
C'est vrai que les médecins en France n'ont pas le droit de faire de publicité. Et du coup, ça peut être, oui, comme tu le dis, ça peut glisser un peu de manière, ouais. On va dire, intéressante. C'est encore un milieu.
Pour l'instant, c'est une zone grise.
Ouais, d'accord. Bon, écoute, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus tech spécifique à la dentisterie. Et tu m'as donné trois sujets essentiels, trois sujets principaux dont on peut parler. Les deux premiers sont peut-être un petit peu ce qu'on peut imaginer, mais j'aimerais qu'on se concentre sur ce que ça change pour les praticiens dans la vie de tous les jours, dans le travail de tous les jours. Puis le troisième est un peu plus science-fictionnesque, peut-être avec la chirurgie guidée par informatique.
Ouais.
Le premier, donc, qu'on évoquait, c'était les caméras intrabuccales. Moi, je vais raconter ma vie aux auditeurs. Hein, je suis sûr que c'est aussi pour ça qu'ils viennent dans l'émission. J'ai été chez le dentiste il y a une semaine et il m'a fait un scan des dents avec une caméra dans la bouche qui le déplaçait un petit peu comme on fait les panoramas avec le téléphone quand on tourne autour de soi et ça nous fait une photo panorama. Il déplaçait et ça a fait une photo panoramique des dents hyper précise. C'était une photo comme, à la limite, si j'avais pu ouvrir la bouche assez grand, il aurait pu mettre un iPhone dedans. C'était à peu près le même truc. Peut-être un petit peu plus précis. Mais d'une part, est-ce que c'est bien à ça que ça sert? Et d'autre part, pourquoi c'est tellement important, quoi? Qu'est-ce que ça change par rapport à la manière dont on faisait les choses avant, avec peut-être le modèle avec la pâte qu'il fallait mordre, qui était ignoble, ou ce genre de choses?
Mais voilà, c'est exactement ça, la pâte ignoble. Alors, la caméra optique, ça se développe. Il y a encore assez peu de cabinets qui sont équipés. Sur le plan du patient, c'est le confort qui change pas mal quand même, puisque comme tu l'as dit, la pâte, c'est jamais très agréable. On peut avoir envie de vomir, le goût est pas toujours top, ça dure un peu longtemps. La caméra, ça permet, c'est presque à distance. On n'a pas à pousser la langue, on n'a pas tout ça à faire.
Ouais. T'as pas de contact avec les dents, quoi. À distance, c'est pas qu'on utilise la 5G pour envoyer des photos. C'est qu'on est à 1 cm des dents, quoi.
C'est ça. C'est ça, c'est plus agréable. Après, en termes de précision, on est sur quelque chose qui est de l'ordre. Alors, ça dépend des caméras et des générations de caméras, mais c'est pas délirant d'avoir une précision équivalente à 20-30 microns. Donc, c'est quelque chose.
Tu veux dire, la résolution des photos, c'est tellement grand qu'on voit, un pixel, c'est 20 ou 30 microns de large, quoi.
Alors, c'est plus une question de précision dimensionnelle, en fait. Puisque, au final, toi, je ne sais pas si l'image qu'on t'a montrée était en couleur.
Oui.
Maintenant, la plupart le font, voilà. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est le volume. Donc, la résolution au niveau volumétrique, c'est de 20 à 30 microns. Et c'est équivalent à supérieur à ce qu'on peut obtenir avec une empreinte traditionnelle.
D'accord.
Donc là aussi, ça...
Et du coup, ça permet d'avoir une modélisation de la bouche qui est plus pratique pour voir ce qu'il faut faire comme travail. Tu me disais également que ça permet de détecter les caries, c'est ça?
Voilà.
C'est pour voir un petit peu partout sur les dents, ou c'est juste que ça permet de voir à l'intérieur des dents avec des caméras, pas infrarouges, mais je sais pas, les trucs qui voient à l'intérieur.
Exactement.
C'est ça, d'accord. Je suis trop fort, parfait. C'est l'instinct.
J'ai plus rien à dire, je te laisse faire. Alors, ça dépend des générations de caméras, mais les toutes dernières qui arrivent sur le marché, là, en fait, en un scan, elles permettent d'avoir un état des lieux. Donc de voir effectivement la bouche, même si c'est pas par ça que va passer le diagnostic, on va quand même utiliser nos yeux pour aller tout vérifier. Ça permet surtout d'avoir une traçabilité, de communiquer avec le patient, de lui montrer, ben voilà, votre dent, elle a cette partie qui manque, pour telle ou telle raison, on peut pas la reconstituer de la façon que vous imaginiez ou que vous auriez voulu. Donc en montrant la dent du patient directement sur l'écran de l'ordinateur, on peut mieux communiquer avec lui.
D'accord.
Ensuite,
c'est vrai que moi, immédiatement, le dentiste m'a dit, il m'a affiché sur son écran, voilà votre dent, ici, on peut faire ça, 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 là, vous voyez. Et c'est vrai que ça, tu le dis en passant comme ça, la traçabilité, tu comprends beaucoup mieux ce qui se passe, quoi, dans ta propre dent, et tu peux... C'est même pas une question d'accepter, c'est que tu vois le truc et tu dis, ok, c'est comme ça, je le comprends. Ouais, c'est une question de compréhension.
Ouais, ça paraît un peu magique, c'est des choses qu'on voit pas, on ressent un petit peu avec la langue, mais on n'a pas... On ne sait pas comment ça marche. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, expliquer aux patients pourquoi on fait ça plutôt que de lui dire ouvrez la bouche.
Ouais.
On travaille 20 minutes et puis c'est terminé, quoi. Donc il y a là la traçabilité pour voir l'évolution des choses, voir si les dents bougent, voir si il y a, je sais pas, des colorations qui apparaissent, la gencive qui se rétracte. En scannant à intervalles réguliers la bouche du patient, on peut lui montrer l'évolution dans le temps de sa bouche. Ensuite, il y a effectivement donc l'infrarouge dont tu parlais. Les dernières générations, elles permettent de faire à la fois l'empreinte volumétrique, la photo des dents, et de regarder par infrarouge à travers les dents, puisque, bon, très très rapide point anatomie, il y a deux tissus dans la dent principaux, c'est l'émail qu'on voit, la partie blanche, et la dentine qui est en dessous, qui sert de structure. L'émail, il est transparent aux infrarouges. Et donc ces caméras qui voient par infrarouge voient au travers de l'émail, directement la dentine, et la carie, elle est très réfléchissante aux infrarouges. Et ça permet de détecter des choses qu'à l'œil nu, on aurait peut-être pu louper.
Donc ça veut dire qu'on peut mieux détecter les problèmes, bon, les caries spécifiquement, avec ces appareils, avec ces technologies, qu'on ne le ferait en regardant avec nos yeux ou même avec des choses plus lourdes, besoin d'aller faire un scan avec la machine qui tourne autour et tout, quoi.
Alors voilà, donc ça c'est pour toute la bouche, mais même si on fait des petites radios des dents, bah, ça permet toujours d'éviter des rayonnements ionisants. Donc c'est toujours bon à prendre.
Oui, donc c'est juste de l'infrarouge, ça ne pose pas de problème de santé.
Non, voilà.
Un point que je veux préciser, du coup, moi je pensais à la photo donc, qui est 2D, mais ça fait une modélisation 3D de la bouche aussi. C'est pour, on veut faire fabriquer, on y viendra dans un instant, si on veut faire fabriquer des prothèses ou des couronnes ou des choses comme ça, avec cette simple caméra, ça fait également, c'est pas juste un appareil photo, c'est, il y a un lidar ou un truc qui...
Exactement.
C'est un lidar, effectivement.
Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, la caméra que t'as vue avec ton praticien, c'était peut-être une caméra simplement photo. D'accord. Moi, j'en ai une aussi au cabinet. Ça permet effectivement, là, surtout de communiquer, de garder trace. Mais toutes les fonctions dont je parle là, c'est pas une simple photo, c'est des machines qui sont beaucoup plus élaborées et qui fonctionnent sur différents principes qui sont en cours d'évolution, et les fabricants sont pas toujours très, très friands dans leur communication de comment ça fonctionne sous le capot.
D'accord.
Ouais. Mais ce qu'on en sait, ouais, voilà. Mais j'ai... oui.
Non, vas-y, finis. J'ai une autre question. J'ai plein de questions après.
Rapidement sur les technologies qui sont employées, parce que là, ça va résonner. Par contre, il y a des technologies qui se rapprochent du Face ID, en fait, avec une projection infrarouge de grille ou de points qui est analysée et qui permet de reconstituer en 3D. Il y a aussi des lidars, il y a des caméras qui fonctionnent par focus, c'est-à-dire qu'ils ont un petit miroir qui avance et qui recule très vite, et en voyant à quel moment un point de la dent est parfaitement net et à quel moment il n'est plus net, voire à quelle distance de la caméra il est. Je ne sais pas si je suis très clair.
Si, avec le flou, tu peux déterminer, là, je comprends. Avec la profondeur. J'imagine, sa profondeur focale qui
est influencée.
Mais du coup, on évoque des technologies qui sont déjà ou qui sont en train d'arriver dans les appareils mobiles. J'imagine que tout ça, comme beaucoup de technologies ces dernières années, se sont développées avec les miniaturisations qui ont été rendues possibles par le développement des smartphones. Ou peut-être que ça s'est fait en parallèle, mais... Est-ce que c'est des choses qui sont, tu crois, en lien, ou peut-être que tu n'es pas exactement au courant de la manière dont ça s'est développé, mais...
En lien, je ne suis pas sûr, parce que les pionniers sont arrivés avant le Kinect, tout ce genre de technologie. Ça vient plus souvent de technologies médicales, en fait.
D'accord.
Qui sont adaptées à notre usage.
D'accord, je comprends. Oui, et c'est vrai que c'est peut-être des choses plus spécifiques et plus... développé et plus cher que ce qu'on peut avoir dans notre smartphone.
C'est à destination de beaucoup moins de monde, donc forcément c'est un petit peu différent.
Du coup, un aspect qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de savoir ce que ça change pour vous, pour les praticiens. Plus de sécurité, plus de machin, mais est-ce que ça vous facilite la vie? Est-ce que ça vous permet de faire plus de choses au quotidien. Peut-être que c'est le cas pour les caméras intrabucales et tu peux nous mentionner la CFAO aussi éventuellement, dont on va parler dans un instant. Mais qu'est-ce que ça change pour les dentistes en fait ?
Ouais, parce qu'effectivement, ça va s'enchaîner avec la CFAO. Mais pour les dentistes, il y a... Alors, une fois la courbe d'apprentissage passée, parce que mine de rien, c'est pas juste passer une caméra pof-pof sur les dents, ça demande un certain apprentissage et ça peut prendre jusqu'à, selon les caméras, 5 à 10 minutes pour faire un scan complet de la bouche. Ça permet pas mal de choses au quotidien. Déjà, ça permet une modélisation de ce qu'on vient de faire. Donc, un cas pratique, sur un patient, je dois lui faire une couronne. Donc, je dois donner à la dent une forme spécifique qui doit laisser suffisamment de place au futur matériau de la couronne en épaisseur. Et le fait de scanner juste après avoir travaillé, je peux ensuite analyser sur l'ordinateur, vérifier que j'ai suffisamment enlevé de dents, que en particulier, j'aurai pas trop peu d'épaisseur qui amène un risque de casse de la future prothèse.
Mais du coup, avant, vous faisiez comment ? C'est un petit peu les questions qui me viennent là. Tous ces trucs, ça a l'air cool, mais avant, vous faisiez comment pour savoir s'il y avait une carie ou... fallait faire des radios, c'était moins précis. C'est comme une photo qui était floue et il fallait deviner. Et maintenant, elle est nette ou...
Alors, là, il y a deux choses du tout dont on parle. Moi, je parlais quand on prépare une dent pour la prothèse. Par rapport au carie, c'est l'expérience du praticien, c'est les sensibilités du patient, c'est visuellement une coloration par transparence qui nous amène à peut-être faire une petite radio pour confirmer ou infirmer notre suspicion.
Mais c'est ce que je veux dire avec le flou qui devient net. Ce n'était pas littéralement une photo floue qui devient nette. C'était, il fallait avoir un petit peu d'intuition, de métier, de pratique et essayer de deviner, tu vois. Et maintenant, on peut savoir très clairement.
Alors, c'est là aussi une aide de diagnostic. Ce n'est pas du 100% non plus, mais ça permet d'apporter un petit peu. Sur la détection de caries, c'est plus une fonction, à l'heure actuelle, c'est pas gadget, mais c'est les balbutiements et ça permet d'apporter quelque chose sans rayonnement ionisant. C'est pas non plus... La révolution, elle se trouve pas dans là-dedans.
Est-ce qu'il y a des gens dans ton métier, sans donner de nom ou de quoi que ce soit, qui disent « Ah, ça, c'est des conneries, ces gadgets, justement, ça peut nous laisser penser qu'on a... bien compris le truc, alors que rien ne remplace le métier, tu vois, je sais pas, des gens qui seraient un petit peu contre.
Bah alors, pas que j'ai rencontré, mais c'est sûr qu'il y en a. Les réfractaires au changement, il y en a toujours, et surtout quand ça remet un petit peu en question leur expertise et leur connaissance.
D'accord. Ah, parce que, c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que ça peut remettre en question une forme de travail et des méthodes peut-être un petit peu anciennes, ce qui amène justement une résistance à ce changement ? Ou est-ce que c'est juste un ajout qui fait que les gens travaillent vite, mieux ?
Pour l'instant, c'est vraiment un ajout. Ça coexiste, ça cohabite. Les prothésistes sont à même de traiter des empreintes, qu'elles soient numériques ou physiques. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est plus...
C'est pas une menace pour les anciens, quoi.
Voilà. Non, ils le regardent à la circonspection, mais ils pourront finir leur carrière sans ça.
D'accord, ouais. Mais est-ce que... Ouais, non, c'est une question qui est difficile, mais moi, je me dis, c'est peut-être parce que je suis un petit peu technophile, je me dis, quelqu'un qui a une caméra de ce type-là qui va lui permettre d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe dans mes dents et sur mes dents, je préfère ça à quelqu'un qui n'a pas cet outil. Peut-être que je suis... Bon, peut-être non, aussi que tu ne veux pas répondre. Mais...
Non, t'as raison quelque part. Ça montre, un certain attrait pour la technologie. Ça montre aussi peut-être quelqu'un qui fait l'effort de se tenir à la page. Après, c'est un indice. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui a la caméra...
est meilleur que quelqu'un qui ne l'a pas.
Voilà. Non. Mais ça peut être un indice. De toute façon, j'en discutais avec des amis assez récemment encore, il y a assez peu de façons de connaître son praticien sur le plan de son travail. Donc, c'est des indices comme ça qui peuvent faire que on va aller vers quelqu'un et pas vers notre.
Ouais, je comprends. Ouais. Donc, je te demandais ce que ça change pour vous. C'est plus de précision dans le travail, mais continue.
Plus de précision dans le travail, plus de confort pour le patient. Et une autocritique de son travail en immédiat, puisqu'on peut zoomer dessus beaucoup plus qu'on pourrait le faire en regardant juste avec nos yeux, modéliser la couronne, vérifier qu'on a suffisamment travaillé là-dedans pour que le matériau ait la place de passer. Et après, il y a toute la partie communication avec le prothésiste qui est facilitée, puisque avec une empreinte traditionnelle, on fait l'empreinte, on l'envoie au prothésiste par coursier le soir, elle arrive le lendemain, il coule le plâtre, etc. Là, on envoie le fichier STL directement par mail, et le prothésiste peut, sans avoir besoin de couler le modèle ou de couler le modèle puis de le scanner lui, chez lui, il travaille directement sur le fichier 3D. Donc ça permet une communication facilitée et plus rapide avec les prothésistes.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est-à-dire que lui, il va concevoir sa prothèse sur son fichier 3D, il va te l'envoyer, il va dire « Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Là, je fais plus comme ci, plus comme ça. » Et puis ensuite, ouais. Après que vous ayez eu un accord de principe, là, il lance la fabrication, c'est ça ?
Tout à fait. Donc cette communication, elle est facilitée, elle est accélérée. Et en plus, avec les caméras qui gardent des données colorimétriques, ça permet de le guider sur... Par exemple, on fait une couronne sur une incisive, sur une dent tout devant, il voit directement à quoi ressemble la dent d'à côté sur le scan 3D.
Mmh.
Au-delà de sa forme, il voit sa couleur, il peut voir quelques nuances, qu'après on peut compléter avec une photo.
Et on peut avoir une sorte de simulation de ce que va donner la couronne une fois en place avec la couleur qu'on lui a choisie, la forme qu'on lui a choisie, et avoir une image de la bouche, ouais, d'accord. C'est marrant.
Et ça permet de valider avec des patients qui, assez régulièrement, le prothésiste envoie une photo. Est-ce que ça va ? On contacte le patient, on lui montre et on valide ensemble sur des cas un petit peu esthétiques, un peu délicats. On valide avant de lancer la fabrication.
C'est marrant parce que l'un des moyens de décrire la technologie et les avancées qu'ont permis la technologie, c'est de dire ça permet de numériser plein de choses. Au début, c'était simple, ça a numérisé le texte, puis ça a numérisé les images, puis la vidéo, puis des business entiers ont été numérisés, le jeu vidéo a été entièrement numérisé, donc dématérialisé en fait. Et puis même, d'une certaine manière, on pensera à Uber, mais il y en a plein d'autres, Uber a numérisé une partie du business du transport, Airbnb a numérisé une partie du business de la location, etc. etc. Là, c'est la numérisation... de la fabrication de prothèses, en fait. Et ce n'est pas juste qu'on va envoyer une empreinte 3D, c'est que toutes les relations ensuite vont être fluidifiées, toutes les communications vont être fluidifiées par le fait qu'on a cet outil numérique qu'on peut envoyer de l'un à l'autre, le modèle 3D, puis une modélisation, puis une simulation qui vont pouvoir être envoyées par ordinateur au lieu de devoir faire, comme tu le disais tout à l'heure, se balader par coursier et envoyer des coursiers à droite à gauche avec les modèles et les pré-modèles et les machins, quoi.
Ouais, tout à fait. Bon, après, ça reste la majorité. Moi, mon cabinet, la plupart du temps... Enfin, moi, mon cabinet, c'est des empreintes traditionnelles qu'on utilise encore.
Donc ça, pour la conception...
C'est majoritaire.
La CFAO, c'est conception et fabrication assistée par ordinateur ou conception de fabrication ?
Conception et fabrication.
Et fabrication. Donc la CFAO, c'est parce que quand on parlait des caméras intrabucales, là c'est une technologie qui est déjà en place. Tu disais ça fait 3, 4, 5 ans que ça commence à arriver dans les cabinets. La CFAO, c'est pas encore le cas ? On est au tout début, c'est ça ?
Alors la CFAO, ça dépend si on parle de la CFAO au cabinet ou la CFAO chez le prothésiste. Au cabinet, ça fait là aussi... Ça fait quelques années que ça se démocratise, mais ça reste un marché de niche dans un marché de niche. Les cabinets qui fabriquent leurs couronnes sur place, c'est très minoritaire. Parce que ça implique d'y passer du temps, une grosse courbe d'apprentissage, l'entretien de machines coûteuses avec beaucoup de, enfin il y a des abonnements par-dessus, donc c'est pas quelque chose qui est très très répandu. Par contre, chez le prothésiste, là c'est même si les dentistes ne le savent pas forcément, en fait leur prothésiste travaille énormément en numérique.
Mais c'était ça à quoi je pensais, en fait. C'est-à-dire que le dentiste va scanner ta dent et puis discuter avec le prothésiste qui est à distance, pas un prothésiste en interne. Dans ces cas-là, on est en CFAO, non ?
Dans ces cas-là, on est en CFAO, mais dans certains cabinets, il n'y a même pas de prothésiste pour certains actes. C'est le dentiste lui-même qui va faire toute la conception de la couronne et l'usiner dans la pièce derrière.
D'accord. Et c'est ça qui est un cas... plus rare.
Très minoritaire.
Ouais. Mais c'est intéressant, ça, du coup. C'est marrant parce que tout ce que tu dis... ça se retrouve par rapport à ce dont on parle souvent dans l'émission. Il y a plein de choses et plein de métiers qui sont affectés par ces technologies et qui font qu'on peut, comment dire, souvent faire plus tout seul, ce qui peut être un avantage ou un désavantage en fonction du domaine. Mais en l'occurrence, ce que tu dis, j'imagine que c'était extrêmement rare avant et que là, c'est peut-être un petit peu facilité parce que usiner une prothèse soi-même quand on est dentiste, c'est tout un autre métier, j'imagine.
Tout à fait, oui.
Ouais. Et du coup, avec des outils informatiques, c'est peut-être... peut-être que je projette, hein, et parce que moi, il y a plein de choses que je fais qui sont en bordure de mon métier, qui sont possibles avec Internet, que ce soit tout mon métier, en fait, n'existait pas. Mais je veux dire, on aurait pu enregistrer ma voix et faire une émission de radio à l'époque, parce que c'est ce qui marchait, c'est la manière dont ça marchait. Mais avec Internet et la numérisation de tout ça, je peux produire une émission, faire le montage, l'envoyer sur vos iPods et vos iPods. J'ai ressorti mon iPod, j'ai fait une photo Instagram, donc j'y pense, mais sur vos iPhones et vos Android. Parce que c'est numérisé et donc c'est des métiers connexes à mon métier réel qui sont possibles grâce à ça. Est-ce qu'on a le même type de dynamique en dentisterie qui grâce à l'informatique, permet aux dentistes de faire d'autres choses aussi, ou est-ce que c'est moi qui projette mon expérience ?
Alors, en fait, ta réaction, ça a été la même que celle des dentistes quand c'est arrivé en cabinet. Et on est en train d'en revenir. Il y a certains cabinets qui fonctionnent encore comme ça, qui ont des usineuses et ça marche très bien. Mais c'est vrai que la majorité voit ça comme un métier effectivement à part, quelque chose qui va... En fait, c'est plus facile dans bien des cas d'envoyer son empreinte au prothésiste, de laisser faire son métier avec son expertise et qui nous renvoie le produit fini. Plutôt que nous, ça peut représenter une perte de temps d'apprendre à le faire, une perte de temps de concevoir la couronne, et après tout ce que je disais sur l'entretien de la machine qui là aussi implique chez le prothésiste, l'usineuse elle va tourner pas 24 heures sur 24, j'exagère, mais elle va tourner beaucoup plus qu'à l'échelle d'un cabinet.
Oui, il faut rentabiliser, il faut une certaine économie d'échelle pour ce genre de choses.
Ouais, après c'est une vision générale, hein. Il y a certains cabinets qui le font et ça marche très très bien aussi.
Bien sûr. C'est marrant, je pense très souvent, et je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans l'émission, à cette image qu'on avait du futur dans les années 50 peut-être, ou au début du siècle. Et ce n'est pas les voitures qui volent, même si ça aussi c'était une vision amusante. Moi, celle qui me marque énormément, c'est celle des carottes râpées.
Je l'écoute.
J'espère que j'en ai fait rigoler quelques-uns dans le bus. L'image des carottes râpées du futur, c'était que toutes les maisons au monde auraient des machines à râper les carottes. Parce que les gens voyaient les ménagères de l'époque qui râpaient leurs carottes de manière un petit peu laborieuse. Ils disaient, on aura des machines qui râpent les carottes automatiquement, on achète les carottes et on les râpe à la maison. Sauf que, évidemment, ce qui s'est passé, c'était un truc qu'on ne pouvait pas vraiment imaginer vu de là-bas. C'était qu'au lieu de vendre des carottes entières et de les râper à la maison, bah c'est plus simple de les râper à l'usine, de les mettre dans un paquet en plastique et de les vendre déjà râpées dans le supermarché. Et ça, c'est tellement un truc qu'on ne pouvait pas imaginer que personne n'y avait pensé. Et c'est pas je t'accorderai que la comparaison est un petit peu capillotractée, mais c'est toujours ce que ça m'évoque. Là, en fait, ça ne sert à rien de se dire « on va tous usiner nos prothèses dans notre cabinet », même si la technologie pourrait le permettre un petit peu plus qu'à l'époque, encore qu'on pouvait peut-être les tailler soi-même à l'époque aussi. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien. autant faire usiner les trucs par des prothésistes dont c'est le métier qui savent bien faire ça, même s'ils sont loin, même s'ils sont dans un autre pays peut-être parfois, et puis les envoyer et voilà, c'est plus simple. Mais bon,
ouais, c'est deux visions des choses. Après, ça présente quand même des avantages notables d'usiner les pièces prothétiques au cabinet. C'est qu'on peut voir le patient faire l'empreinte et lui poser la pièce prothétique dans la même journée, voire dans la même séance.
D'accord. Bon, avantages et inconvénients, voilà. C'est encore le début, quoi qu'il
chacun
arrive.
Chacun verra midi à sa porte.
C'est ça. La dernière chose dont on voulait parler, c'était la chirurgie guidée par informatique. Et là, j'imagine encore des choses absolument super futuristes, genre le dentiste qui est chez lui et qui, par 5G, évidemment c'est par 5G, a une sorte de machine avec des faux ciseaux virtuels là, et il peut opérer les personnes à distance. Non, évidemment, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de chirurgie assistée par informatique.
Alors, enfin, ça existe, hein, pas dans le dentaire, mais là, la chirurgie assistée par informatique, je vais prendre un exemple très précis, ça va être la pose d'implant. C'est surtout là-dedans qu'on l'utilise. Il existe des technologies qui se basent sur la triangulation. Donc, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Tu m'arrêtes si c'est pas compréhensible ou si je te fais confiance.
Aucun souci. Interrompre les gens, c'est ma spécialité.
Donc, on prend le cas de Madame Michu qui doit se faire poser un implant. Elle va dans un cabinet qui est équipé de cette machine. On va lui faire faire une radio 3D avec un petit clip qu'on va venir clipser sur les dents de la mâchoire. Donc, mettons que l'implant doit être posé en bas à droite. On va lui mettre un petit clip en bas à gauche pendant la radio qui va être enregistré pendant la radio. Ensuite, sur un logiciel de conception, on va placer l'implant numériquement dans la radio 3D. D'ailleurs, on peut placer l'implant aussi en fonction de l'empreinte numérique qu'on a fait au préalable avec la caméra. C'est-à-dire qu'on va matcher la radio 3D avec la modélisation 3D de la bouche. On va créer la couronne, on va poser l'implant en fonction de la couronne.
Ok, jusque-là, je suis.
Bon, on place l'implant dans la mâchoire sur la radio et ensuite on va passer au bloc. Le bloc, il va être équipé d'une grosse machine qui a ces deux grosses caméras. Là, ça ressemble un petit peu au Kinect. Hein. C'est deux grosses caméras, un projecteur qui va permettre d'enregistrer sur le clip. Je me perds un petit peu. Sur le clip, pendant l'opération, on va venir mettre un manchon qui a un peu comme un QR code au bout, qui va être capté par la machine sur l'outil du praticien, donc ce qu'on appelle une pièce à main chirurgicale. On va avoir un autre QR code et la machine, grâce à ses caméras, en comparant le QR code qui est sur le clip sur la mâchoire et le clip qui est sur la pièce à main, va pouvoir repositionner l'un par rapport à l'autre. Est-ce que je suis clair?
En fait, tu me dis si j'ai bien compris. Je schématise un petit peu, mais on va faire une modélisation 3D de la mâchoire, de l'implant. Ouais. On va virtuellement placer l'implant dans la mâchoire, mais virtuellement, juste en 3D, pour donner à la machine les données nécessaires à ce placement. Et puis, avec des petits outils optiques, on va permettre à la machine de placer et de guider le placement de l'implant dans la vraie bouche du vrai patient grâce à cette simulation qu'on a fait en amont, en fait. C'est ça que tu veux dire ?
Voilà, en fait, le clip qui est sur la mâchoire du patient permet à la machine de savoir exactement la position de toute la mâchoire du patient. Et le clip qui est sur la pièce à main permet à la machine de savoir exactement la position du foret qui va servir à poser l'implant.
Mais c'est assez précis, ça, parce que de mon expérience, si t'es à un dixième de millimètre trop en bas ou trop en haut, ça peut faire très très mal. C'est vraiment assez précis.
Ah non, c'est plus précis que tout ce qu'on peut faire. Dans les chirurgies guidées, on peut utiliser des cales, donc des gouttières, et on passe le foret à travers des petits manchons. C'est moins précis que ce qu'on peut faire en numérique avec ça. Alors le clip, il faut s'imaginer, quand je dis un QR code, c'est un truc c'est un cylindre qui fait 10 cm de haut par 3 cm de diamètre, et il y a la même chose sur la pièce à main du praticien.
Attends, 10 donc par 3, ça ne tient pas dans la bouche, ça.
Non, non. Alors, c'est clipsé sur le clip. t'as un petit clip qui est posé sur les dents du patient et t'as une petite tige qui sort de la bouche et qui, elle, est scannée par la machine.
D'accord. Donc, a priori, comme tout ça est solide et les frame of reference, je ne sais plus comment on dit en français, enfin, les trames de référence restent attachées. Quand tu sais, même voilà. Si c'est un peu plus loin, comme c'est très rigide, tu sais toujours où est chaque truc. Et le QR code, oui, c'est pas. J'ai vu des photos, c'est assez gros, quoi. C'est pas un tout petit truc.
C'est assez gros. Donc ça permet, en fait, comme c'est solidaire à la mâchoire, comme tu le dis, les machines, c'est exactement la position de l'intégralité de la mâchoire du patient. Mmh. Comme il connaît la position de l'outil, il peut, en comparant les deux, savoir où est l'outil par rapport au clip et donc par rapport à l'implant et au futur implant.
D'accord. Mais du coup, il va guider. Quand on dit il va guider la main du dentiste, c'est quel type de guidage? Parce que à la limite, quand il a toutes ces informations, il a le. Je parle de il, je dis la machine. Oui. Quand elle a toutes ces informations, qu'elle a la simulation virtuelle, est-ce qu'elle pourrait pas faire la chose presque toute seule en fait?
Alors, peut-être dans le futur. À l'heure actuelle, c'est pas une technologie qui existe.
D'accord.
En tout cas.
Alors, ce qui existe. Attends, finissons peut-être avec ce qui existe déjà. Ouais. Donc, on a ces gros QR codes, le scan virtuel, le machin. Qu'est-ce qu'il fait le dentiste avec ça? C'est juste qu'il fait son opération et puis la machine lui dit bip bip, vous vous approchez trop de la racine ou un truc comme ça.
Alors, en fait, là, quand on pose l'implant dans ces conditions-là, on regarde même pas dans la bouche du patient.
Ah oui.
Ah ouais. C'est tout sur l'écran. En fait, on s'approche, on regarde un petit peu pour se rapprocher, mais dès que l'acte précis débute, on a un écran qui est sur la machine avec 4 images différentes. 4 images, il y en a 3 qui correspondent aux différentes coupes radiologiques. Donc en fait, le praticien ne pose pas l'implant en regardant dans la bouche, il pose l'implant sur la radio directement.
D'accord.
Il voit sur la radio apparaître son outil. Et il enfonce son outil en regardant sur la radio où il est. Je ne sais pas si je suis très clair.
Oui,
c'est un peu difficile à définir.
C'est très clair, c'est très clair. Mais la radio, ce n'est pas une radio qui est en temps réel. C'est la radio qu'on a pris avant.
Non, tout à fait. Mais du coup, comme avec le petit clip qui est sur les dents, on recale la radio par rapport à la mâchoire physique du patient, ça, les deux correspondent. Et donc, ça permet de ne pas avoir une vision de surface du site opératoire. On le voit dans toutes les dimensions de l'espace en coupe.
D'accord. Donc, effectivement, on a une modélisation 3D de la mâchoire et puis les outils qui sont placés grâce à ces capteurs dans cette simulation 3D qu'on a fait auparavant. Et donc, on va faire l'opération sur cette simulation, en fait.
C'est ça.
C'est assez impressionnant. C'est une virtualisation de la chose. C'est marrant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de médecine assistée par ordinateur ou de chirurgie guidée par informatique qui fonctionne de cette manière, mais ou approximativement de cette manière. Mais en fait, quand on conceptualise bien le truc, tout repose sur le placement très précis de l'outil dans la bouche et dans la dent. Tout le reste... importe peu au final, tant qu'on a la bonne image. Exactement. On sait qu'elle n'a pas bougé. Ce qu'il faut, c'est que ça soit hyper précis comme placement, et si on a ça est pris en compte, c'est bon.
C'est ça. Donc on pose même pas vraiment sur le patient, on pose dans la modélisation comme tu le dis. Et d'accord. Donc il y a les 3 coupes dans les 3 plans de l'espace, et ensuite on a une autre représentation où là c'est vraiment la modélisation 3D de la mâchoire du patient, et il y a l'outil qui apparaît dessus, et il faut aligner une cible. Quand c'est aligné, quand l'axe de l'outil est aligné avec ce que veut la machine, ça devient vert, on peut commencer à fraiser. Et puis là, pareil, la profondeur, quelque chose qu'on a un peu de mal à évaluer, on l'évalue bien visuellement, mais on a la machine qui nous dit... Littéralement, là on est à 1 mm, là à 2 mm, là à 3 mm, et on a une profondeur cible qui clignote quand on y est, et puis on s'arrête.
Mais du coup, alors moi je suis un joueur de jeux vidéo aussi, mais c'est forcément à ça que ça me fait penser tout de suite. C'est pas juste... Ça. Parce que moi, quand tu me décrivais le truc, je me disais, ok, donc il peut voir ce qu'il fait, mais il y va quand même. comme on a évidemment déjà placé l'implant dans la simulation, la machine sait où on doit aller et donc elle te guide comme un jeu vidéo. C'est genre, quand c'est vert, vas-y fraise, mais sinon ça fait bip, 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 arrête-toi.
C'est ça.
D'accord. Donc
c'est vraiment ça.
Je vais faire hurler tous les dentistes qui nous écoutent, mais du coup, c'est beaucoup plus facile, quoi. À la limite, tu me dis où il faut que j'aille en 5 minutes, j'ai déjà joué à plein de jeux vidéo, je pourrais le faire moi-même. Je change les bonnes, tu sais, je prends les bonnes fraises, je mets le bon truc, c'est pas si dur, non ? Je plaisante, mais...
Alors, non, mais c'est effectivement une réaction qui apparaît. Y a quelques petits facteurs qui
compliquent les choses.
Ça. Ouais, y a le fait que le geste opératoire il reste quand même malgré tout très précis, donc il faut avoir une habitude parce que la machine elle dit où il faut aller, mais si
mais faut quand même y aller soi-même, quoi.
Pas, voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est un peu comme de dire que on pourrait être médecin généraliste parce qu'on sait diagnostiquer un rhume et donner du Doliprane. La formation, elle est pas pour les 99% des cas où ça se passe bien, où c'est facile. La formation et l'expertise, elle est pour le pourcent où ça va être plus compliqué. Et puis là, on prend le cas d'un implant. D'ailleurs, implant, je ne l'ai pas défini, mais là, quand on parle d'implant, c'est des petites vis qui remplacent la racine d'une dent qui n'est plus là.
Ouais.
Voilà. C'est une petite vis en titane. Et là, on est dans le cas d'une seule vis, d'un seul implant, mais chez certains patients, on va en poser 5, 6 pour remplacer toute la bouche. Alors là, il faut savoir ce qu'on fait. La machine, elle guide, elle permet une précision inégalée, vraiment, mais elle ne fait pas non plus tout.
Mais du coup, l'autre question qui me vient, c'est comment on faisait avant ? Parce que pour voir ce qui se passe dans la dent et bien placer la vis dans la racine, faut le sentir tactilement, en fait. Quand on bouge un petit peu, ça, là, on est bien dans la bonne place. On essaye de regarder comme on peut avec des miroirs. Mais là, ça doit transformer complètement la pratique, j'imagine, quand même. Encore plus que tout ce dont on a parlé avant.
Ça simplifie beaucoup. Alors, juste petite précision, quand je dis du coup l'implant, il n'y a plus de racine là, quand on le pose. C'est directement dans l'os. C'est une dent qui a été enlevée parce qu'elle était cassée, trop carriée, que sais-je. Donc, c'est directement dans l'os.
Oui, pas dans la mâchoire, oui, je comprends.
Ouais. Non, mais c'est juste une question que je fais parce qu'il y a beaucoup de patients qui confondent ça, donc je préfère que ce soit. Comment on faisait avant ? Ben, là, l'expérience du praticien rentrait encore plus en jeu. Alors pour la profondeur sur les forêts, on a des petites graduations, on a des jauges qui nous permettent de savoir si, donc on sait qu'on doit arriver à telle jauge et puis quand on y arrive on s'arrête. Le principal problème qui se pose quand on le fait à la main, en fait, c'est l'axe, c'est le fait qu'on voit la surface de la mâchoire, on voit comment on pose notre forêt, mais on peut dévier de quelques degrés et ça c'est très difficile de le voir puisqu'on n'a que la surface. Donc là, le rôle de l'assistante, il est primordial, puisqu'elle permet de contrôler dans un autre axe et vérifier que l'effet de parallaxe n'entre pas trop en jeu.
D'accord.
Et après, il y avait des guides qui peuvent être imprimés en 3D aussi, là, avec des petites imprimantes à dépôt de filaments fondus, qu'on clipse sur les dents. Et au niveau de là où on doit poser l'implant, on a un petit trou et on va juste glisser le foret dans le trou.
D'accord. Je comprends.
Mais
il y avait des moyens de mitiger, mais...
Voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est là, autant pour l'impression, la caméra, ça se démocratise, autant les choses guidées dont je te parle, dans la région où je travaille, il y en a, à ma connaissance, 6 de machines comme ça.
D'accord. Donc c'est vraiment... J'imagine que c'est des machines très très chères... Et qui sont.
C'est des machines très chères et il y a un peu d'attente. En fait, ils n'ont pas fabriqué beaucoup pour l'instant. D'accord. Mais c'est le prix d'une Tesla. Ouais.
Oui, d'accord. intéressant tout ça. Écoute, ça nous fait un beau petit panorama de la manière dont la tech a influencé le métier de dentiste. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées, dont on pourrait parler, que tu voudrais évoquer ? Ou est-ce qu'on s'arrête là et... pour pas te faire trop peur aux gens qui doivent aller chez le dentiste demain.
Non, je pense qu'on a fait le tour des choses les plus importantes. Après, on pourrait parler de ce qui se passe chez le prothésiste avec l'usinage ou la fusion laser, puisque les dentiers et tout ce qui est métallurgie peut être fait par fusion laser à l'heure actuelle. Mais
écoute, on va juste faire, fais-moi une minute sur la fusion laser, parce que tu peux pas me dire laser et pas, en parler plus.
Je l'ai fait exprès, hein. je l'ai pas lancé innocemment.
très habile, Julien.
Donc oui, tout ce qui est métallurgie, avant c'était réalisé par méthode de cire perdue, donc le produit faisait la forme en cire, et après par un procédé qui est connu depuis l'Antiquité, il le transformait en métal. À l'heure actuelle, c'est de l'impression 3D additive, donc on a une machine qui fait une pièce de 20 mètres carrés en gros, qui va déposer une couche de poudre métallique de 20 microns d'épaisseur par exemple. Le laser va venir frapper la poudre et la fusionner selon un motif précis. Puis on descend la plateforme de 20 microns, on remet 20 microns de poudre et on refusionne. Et par addition de couches successives, on finit par, par faire la forme ou du dentier ou de l'armature qui va servir à faire la couronne, ce genre de choses.
Et c'est récent ça, c'est de la technologie d'impression 3D. Ça ressemble au dépôt de filaments que tu évoquais tout
exactement
à l'heure, mais en plus... Donc c'est relativement récent, ça fait moins de 10 ans que ça existe ce genre de choses, j'imagine.
Ça fait une dizaine d'années que c'est démocratisé. Après, ça existe depuis un peu plus longtemps que ça en preuve de concept, mais les machines à usage grand public, une dizaine d'années, c'est à peu près ça.
Est-ce que du coup, on revient au début de l'émission, est-ce que je vais pouvoir me faire mes dents avec mon imprimante 3D moi-même, tranquillement, bon, une pièce de 20 mètres carrés avec des couches de 20 microns? Ça risque d'être... Mais tu parlais des dents de vampires qui sont faites pour leurs enfants. Il y a des gens qui s'amusent avec ce genre de choses, j'imagine. Enfin, c'est ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'on peut faire comme trucs marrants qui ne sont pas trop sanctionnés, mais qui font quand même?
Au niveau des dents en particulier ou
Avec toutes ces machines, je suis sûr qu'il y a des laborantins et des prothésistes qui s'amusent à faire des trucs.
Mais... Ah oui, c'est sûr. Ma prothésiste m'avait proposé de collé sur un de ses amis qui était fan de métal, il voulait faire une couronne avec une petite tête de mort dessus.
Qu'on verrait pas? Alors, ou genre sur la...
Ah si.
Ah oui, d'accord.
Si.
Mais quand tu dis une petite tête de mort, c'est genre une dent qui a une tête de mort gravée dans la dent, c'est pas juste un dessin de tête de mort?
Ah non, c'était même plus que gravé, c'était en relief, en positif sur la couronne.
Ah oui, d'accord. Ok, écoute, pourquoi pas?
Donc il y a des patients, des strass, des choses comme ça se fait, ouais. Et puis après, au niveau de l'impression générale, n'importe quel fichier STL qui fait moins de 10 cm par 10 cm peut être imprimé avec ce genre de choses, quoi.
Ah, STL, c'est un format de fichier de 3D, de modélisation 3D. Ouais. Mais donc, j'imagine qu'on peut trouver des fichiers STL de plein de choses. On pourrait imaginer effectivement faire une dent avec un Totoro au lieu de la dent.
Ah, mais tu vas sur Thingiverse et tu télécharges ton truc et c'est parti, quoi.
Bon, j'allais dire, c'est marrant que ça se voit pas plus, que ça n'existe pas plus. Mais si l'idée est marrante, le fait de se balader avec une dent fantasy comme ça, le
faut
truc...
assumer.
Ouais, c'est ça. Et puis les dents, c'est quand même un truc un petit peu particulier, quoi. C'est pas un truc avec lequel tu joues beaucoup. Je suis sûr que ça se fait, hein, de la même manière qu'il y a de la scarification. Des rappeurs, effectivement, beaucoup. Des tatouages, des piercings, il y a plein de choses qui se font. Le truc qui serait marrant, c'est d'avoir une sorte de vis pour la dent, et tu peux dévisser la dent ou la déclipser, et puis en mettre une autre en fonction de ton humeur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais peut-être que ce n'est pas assez stable encore pour les dents.
Oh, mais tu sais que les implants dont on parlait tout à l'heure, il y a deux façons de solidariser la couronne à l'implant, et l'une d'entre elles, c'est en vissant. Je n'ai pas vu de cas similaires, mais rien n'en empêche.
Écoute, peut-être qu'on donnera des idées à certains auditeurs. Si c'est votre truc, vous pouvez nous envoyer des photos sur les commentaires. On regardera tout ça avec attention. Bon, bah merci Julien, c'était fort sympathique et fort instructif, cette petite discussion. Est-ce que tu as une présence sur Internet dont tu veux nous parler, ou c'est pas la peine, un compte Twitter, quelque chose comme ça?
J'ai une présence, mais comme je disais tout à l'heure, par rapport à la publicité, je préfère pas trop parler d'une quelconque présence où qu'elle soit.
Ça marche.
Ceux qui me connaissent m'auront reconnu.
T'auront reconnu, très très bien. Merci beaucoup Julien, c'était fort sympathique de t'avoir pour cette petite heure. Pour ma part, c'est comme toujours Note Patrick, vous le savez, je suis sur Twitter, Facebook, Instagram. On a aussi un super Discord où on peut discuter de tout ce dont on parle dans les épisodes. Vous avez le lien vers le Discord sur notepatrick.com, le Discord où on peut discuter des derniers épisodes dans la partie publique de tous les toutes les émissions que je fais, vous pouvez venir vous joindre à nous. On a vraiment on passe de bons moments. Vous pouvez également souscrire à la newsletter, là encore sur notepatrick.com. Il y a tous les liens hein, sur notepatrick.com. Vous vous en souviendrez, c'est très facile. La newsletter, si vous voulez des infos sur ce qui s'est passé dans la tech, le plus important à retenir, bah, vous pouvez vous abonner à la newsletter dans la tech et dans le jeu vidéo. C'est une newsletter que je fais toutes les semaines où je réunis les articles les plus intéressant de la veille que je fais. Vous savez que j'écume des centaines d'articles toutes les semaines, donc vous avez vraiment le meilleur du meilleur dans cette newsletter. Comme je disais, c'est sur notepatrick.com. Et puis bien sûr, outre le Discord et la newsletter, il y a le Patreon. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Là encore, le lien est sur notepatrick.com ou alors directement dans les notes de l'émission. Vous pouvez soutenir l'émission et profitez-en parce qu'il y a des choses qui vont changer sur le Patreon. Donc ça sera peut-être un petit peu différent dans une semaine ou même dans quelques jours. Donc profitez du niveau à 2$ par exemple qui lui risque de disparaître comme je vous le dis depuis un petit moment. Donc c'est le moment. Et on sera de retour dans une semaine avec un nouvel épisode. C'est Fanny qui m'aide à la production des émissions, qui disait, en me demandant si on devait rappeler l'épisode de la semaine prochaine, elle disait « Ah, est-ce que je dois rappeler aux Fabulous qu'il y a un épisode la semaine prochaine ?» Et les Fabulous, c'est qui ? Eh bien, c'est Jérôme, Cédric et Corben, les trois Fabulous du Rendez-vous Tech. Je ne sais pas si je suis inclus dans le lot, mais les Fabulous du Rendez-vous Tech. Normalement, ils seront là tous les trois. On verra s'ils auront des empêchements, mais on aura une bonne petite conversation la semaine prochaine avec eux trois. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à Julien pour son expertise. Et puis, on se donne rendez-vous
avec dans plaisir. Une semaine.
Ciao Julien, au revoir. Salut à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.